Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, voici Une vie, une œuvre de l'été avec aujourd'hui un portrait du musicien engagé Fela Anikulapo Kuti, 1938-1997. Musicien marquant pour son art, il l'a été non seulement à l'échelle de son pays, le Nigeria, mais aussi au-delà des frontières, jouissant d'une popularité immense grâce à des titres comme Shakara, Zombie, Lady, No Agreement ou Hasta la Vista qui ont fait le tour du monde. Des tubes qui sont aussi des emblèmes de cette musique qu'il a su inventer, l'afrobeat, alliant le jazz et la soul aux rythmes locaux comme le juju et le high life. Fela Kuti était chanteur, pianiste, trompettiste, avant de devenir saxophoniste et chef d'orchestre. Il était aussi un fervent activiste, dénonçant les puissants et la corruption, devenant par ses prises de position un emblème pour le petit peuple des ghettos. Mort du sida en 1997, il a constitué un héritage qui comprend plus de 40 albums et qui constitue l'un des socles de la world music actuelle. Jérôme Sandelaar et Anne Franchini ont eu envie de revenir sur son parcours extraordinaire dans ce documentaire qui fait la part belle, vous allez l'entendre, au témoignage direct de ses proches, une émission déjà diffusée une première fois le 27 mars 2011.
Impossible de se frayer un passage dans cette petite rue du quartier résidentiel d'Ikeja.
12 août 1997.
Nous sommes devant la maison du roi de la musique afrobeat, la République Kalakuta, du nom de la première cellule de prison dans laquelle Fela se retrouve en 1974. L'hymne Egba, écrite par le père de Fela pour sa région natale d'Abeokuta, près de la frontière béninoise, entonnée par la famille du chanteur saxophoniste. Son corps est exposé au balcon, au premier étage. Fela repose toujours comme la veille avec un énorme joint de cannabis à la main droite. Qu'on vienne l'arrêter si ça dérange, lance l'un de ses proches.
No Marxism, Leninism, no capitalism, Africanism.
Right now, I want to bring on stage the man we've all been waiting for. And by that, I mean the black president, Fela Anikulapo Kuti. Here he comes!
Fela Kuti, la musique est un sport de combat. J'ai 44 ans, je peux jouer de la musique 5 ou 10 heures d'affilée. Je ne suis jamais fatigué. Je rajeunis. Parce que la dimension spirituelle de ma musique me porte. La musique est un don spirituel. La musique appartient au futur. La musique est l'arme du futur.
Tomorrow, next month, I'll be president of this country. I will be president of this country, I know that.
René Lenoble, vous avez été régisseur de Fela à partir du début des années 80, c'est ça? Comment ça se passait, les tournées avec Fela?
C'était vraiment que du plaisir, que de la découverte aussi. On découvrait, c'était le début de l'afro en France. Peu de gens comprenaient ce qui se passait. Donc voilà, mon rapport avec eux, c'était un peu celui qui arrangeait tout, mais en même temps celui qui serrait la vie. C'était, tu régis 60 personnes en tournée, quoi.
60 personnes qui se déplaçaient en permanence?
Le nombre fluctuait du début à la fin, mais ce n'étaient pas toujours les mêmes personnes qui étaient à la fin de la tournée qui avaient commencé la tournée. D'abord, on en perdait beaucoup, de musiciens, on perdait des musiciens en tour de route. On les retrouvait, on a pu les retrouver quelques années après sur des tournées. Lui, le mec revenait normalement à un concert de Fela, sachant que sa place était encore libre. Et généralement, il réintégrait la troupe. Et donc, c'est pour ça qu'on avait toujours ce qu'on appelait des spare musicians, des musiciens de remplacement. On avait donc deux bassistes, deux batteurs, des éléments qui ne peuvent pas te manquer sur un groupe. Parce que c'est un peu les balais des régimes soviétiques, quoi. À la belle époque, quand ils visitaient l'Europe, ils en perdaient toujours. Il y en a qui passaient à l'ouest. Ben nous, c'était un peu le cas, quoi. Il y en a qui passaient à l'ouest.
Give me shit, I give you shit.
Tout était à apprendre, et aussi pour eux, parce qu'ils venaient de Lagos. Dans les années 80, c'était plus Blade Runner qu'autre chose, l'époque Lagos à cette époque-là. Dans ce côté d'une société après technologie. Donc le Nigeria, dans les années 70, a connu un boom industriel extraordinaire grâce au pétrole. Troisième producteur de pétrole dans le monde, il y a du pognon qui coule à la pelle, dans une corruption qui n'avait pas de nom, quoi. Tout était inventé, avec des usines qui étaient construites et qui n'ont jamais été terminées, une infrastructure routière qui s'est arrêtée du jour au lendemain, un aéroport qui n'était pas du tout fait pour être à Lagos, mais qui avait été prévu pour être fait à Munich. Donc tout était comme une cité qui a connu la technologie et où tout s'est arrêté. Et donc tu as une ville qui est faite pour l'électricité alors que tout le monde marche avec des groupes électrogènes. Puis il fait nuit, il fait du bruit, les gens vivent comme ils peuvent, c'est Blade Runner, quoi. Il y avait vraiment de la survie.
Vous voyez ce qui se passe au Nigeria ? Il faut que j'en parle dans mes chansons, de manière directe, afin que le peuple puisse comprendre ce qui se passe. Le moral des gens est au plus bas. Pas de nourriture, pas d'eau, pas de lumière, pas de gouvernement. Les gens sont à cran. Pas de situation solide. Les racines sont perdues. Nos sénateurs font des allers-retours en Amérique tous les jours. Et rien ne change dans mon pays. Il y a beaucoup de voleurs. Le peuple pense qu'il doit se faire justice lui-même, alors il n'hésite pas à lyncher ou à tuer toute personne suspectée de vol. Et c'est mal. C'est indigne des Africains. Cette atmosphère criminelle est créée de toutes pièces par le gouvernement qui profite des gens instables.
Instead of workers, we have officials. Instead of bosses.
Ça l'a fasciné, parce qu'il avait beaucoup de gens qui étaient militaires, gradés, qui étaient des gens qui étaient à l'école avec lui. Il faisait partie quand même de la bourgeoisie
Francis Kartekian.
Nigérienne, la bourgeoisie Yoruba.
Son père est celui qui, le premier, a conduit une voiture dans les rues de Abeokuta. Donc Abeokuta, c'est une grande ville qui se trouve au nord ouest de Lagos.
François Bensignor.
Et Abeokuta est une ville assez particulière dans la mesure où c'est là que se sont installées la communauté Egba du peuple Yoruba. Et cette communauté Egba a été celle qui a été la première christianisée par les prêcheurs anglicans. Donc en fait, ce sont des populations qui ont été éduquées par tous ces révérends, enfin les pasteurs. Hein. Et le grand-père de Fela a été l'un des Yoruba de la communauté Egba, le plus célèbre dans le monde anglican, jusque même à Londres, parce qu'il était pasteur chantant. Il s'appelait Josiah Jesse Ransom Kuti, ce qui explique d'ailleurs pourquoi, beaucoup plus tard, il a absolument voulu se débarrasser de ce nom de Ransom, qui pour lui était une tache indélébile sur le nom de sa famille, africaine, Yoruba et Egba, pour prendre celui de Anikulapo, donc qui est un nom africain.
I want to present myself as an African. I want you to look at me as something new that you do not have any knowledge about. Because most, 99.9% of the information you get about Africa is wrong.
Dans quelles circonstances vous l'avez rencontré, vous, Francis Kartekian, Fela?
J'ai rencontré d'abord le Nigeria et Lagos. Lorsque j'étais à Lagos en 75, Fela n'était pas là. Il était au Ghana, réfugié au Ghana. Mais toute la ville transpirait le Fela. La musique de Fela était de partout, les anecdotes autour de lui. Donc toute la jeunesse de Lagos était imprégnée de Fela. Je trouvais que les gens à Lagos parlaient le Fela, en tous les cas, des phrases entières, des attitudes, des sentences, des slogans de Fela qui étaient véhiculés. Water no get enemy, Africanism force of the mind, fear is not for men, tous ces slogans énormes que les gens portaient. Quoi. Le verbe de Fela habitait les chauffeurs de taxi. C'était une légende déjà. Quoi. Donc on nous racontait qu'il était immortel, on disait qu'il défiait la loi, qu'il n'avait pas peur de la poule. Enfin voilà, que des choses qui donnaient qu'envie de le rencontrer.
Brothers and sisters, the father of pan-Africanism, Dr. Kwame Nkrumah, says to all black people all over the world, the secret of life is to have no fear. We all have to understand that.
On arrive chez lui le matin.
Philippe Conrat.
Et déjà, c'était assez bizarre parce qu'il y avait un arbre sans feuilles et à la place des feuilles, il y avait plein de bouts de papier. Donc on se demandait qu'est-ce que faisaient tous ces bouts de papier qui étaient accrochés à l'arbre. Ça, c'est un type qui est venu dealer des Bibles il y a 2 semaines et je pense que la parole divine, le mieux, c'est qu'elle soit accrochée dans l'arbre. Et j'arrive chez lui, donc il avait une longue pièce rectangulaire. Alors il y avait un espèce de fauteuil énorme, fauteuil en cuir style lévitant au milieu. Les gens étaient assis tout le long de la pièce, sur les côtés de la pièce et jusqu'au fond. Et donc Fela me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, je voudrais t'interviewer, je fais un film, c'est juste une petite interview. Et il me dit, ah ouais d'accord, c'est 1 000 $. Je le regarde, je lui dis non, pas 1 000 $, parce que moi j'ai pas 1 000 $, c'est une bière. Ah, il me dit non, ça va pas du tout, pas d'interview. Il me fait asseoir à sa gauche. Là, donc, il était en slip blanc. Puis, on commence à discuter. Il palabre, il discute et tout. Évidemment, tout le monde fume des gros, gros pétards. Et donc, je ne sais pas, au bout d'une heure, une heure et demie, il s'adresse à tous les gens qui étaient là et il dit « Vous êtes peut-être étonnés de voir ce blanc-là qui est assis à côté de moi. Vous ne savez pas qui c'est, vous ne savez pas ce qu'il veut. » Il veut m'interviewer, je lui demande 1 000 $, il me dit que je vais avoir une bière. Il y a la télé américaine qui est juste venue avant, eux ils m'ont proposé plein d'argent. Mais pour la France, pour Jack Lang, pour Madame Mitterrand, qui ont fait que j'ai pu être sorti de prison, je vais faire l'interview gratos. Il se tourne vers moi, il me dit, attends-moi juste, je vais changer de slip.
Yes, we'd like to welcome in the Corrupt Republic. Have a ball, wait a minute. We'll play some songs.
Et Fela, lui, alors vivait dans quel environnement à cette époque-là?
Alors Fela vit dans un endroit qu'on appelle Calakuta, qui est une espèce de... Alors, Calakuta République, j'ai trouvé un fantasme, je ne sais pas d'où ça venait ce terme de république, mais c'était plus une communauté. Une communauté de bien ou de mal, en tout cas, je ne sais pas, mais une communauté de gens qui s'agrégaient autour de Fela, parce qu'il y avait à manger. Voilà, donc autour de lui, il y avait un tas de mecs qui étaient là, et que, comme tout le monde devait se rendre utile, il y en a qui se rendaient utiles en étant musiciens. Et puis voilà, ça créait une espèce de tribu dans un lieu où tout se passait.
Fela, c'était vraiment un chef coutumier qui avait une morale, qui transmettait quelque chose, qui était respecté. Il n'édictait pas la loi, mais il donnait des réponses à des questionnements, donc politiques en particulier, parce qu'il y avait des gens qui lui posaient des questions politiques, il était engagé auprès d'un tel ou d'un tel politiquement. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose aussi, il y avait des gens qui venaient lui demander de l'aide, lui demander de l'argent. Je pense qu'il y avait un mélange entre l'Afrique du chef coutumier et le leader politique et la star musicale. C'est-à-dire, en fait, il faisait le syncrétisme entre les trois.
Mais c'était plus près de la communauté, telle qu'on avait pu les connaître dans les 60-70, qu'une république organisée, en tous les cas. Mais ça foisonnait de bonnes idées, en tous les cas. Ça, c'est une certitude.
Thank you, brothers. We are the color of the republic right now. In everything possible to be happy.
C'était Lagos, mais centré sur Fela. Donc il y avait des vendeurs de nourriture, des rouleurs.
Beaucoup de jeunes, des jeunes qui sont en rupture de banc, des jeunes qui refusent les règles familiales qu'on leur impose, des jeunes qui ne veulent pas qu'on leur montre un chemin qu'ils n'ont pas envie de suivre et qui, dans les paroles de Fela, entendent le discours que eux ont envie d'écouter.
La police est arrivée avec 5 voitures, des Land Rover, de gros camions. Ils ont commencé par entourer la maison, puis à matraquer tout le monde, à jeter des gaz lacrymogènes. Ils nous ont tous fait sortir en nous frappant. Après, ils ont frappé Fela, ils ont tout volé, tout notre argent. Nous ne savons même pas ce qu'ils reprochent à Fela. Je les assure d'une chose. S'ils croient que je vais changer ou modifier mon attitude, ma façon de vivre, mon expression, mon but politique, ils me rendent plus fort. Je suis bien plus fort maintenant. Vous voulez voir comment la police m'a battu? Je vais vous montrer. Regardez. Ils m'ont démoli. Je ne suis pas mort parce que mon nom est Annick Lakbo.
I have death.
J'ai la mort dans ma poche.
In my pouch. I can't die.
Je ne peux pas mourir.
They can't kill me.
Ils ne peuvent pas me tuer.
You know, they have to spoil the shrine, call it danger zone.
Ils veulent détruire le temple, ils l'appellent zone dangereuse dans le journal sur ordre de la police.
So it makes people afraid to come to the shrine, but
mais les gens n'auront pas peur de venir mardi.
Fela, comme son nom africain l'indique, Annick Lakbo, qui porte la mort dans son carquois, Fela n'a peur de rien. Personne ne lui fera changer de chemin à partir du moment où il a décidé de prendre celui qu'il a envie de prendre. Alors évidemment, pour le pouvoir, une personnalité aussi obstinée et aussi écoutée, parce que c'est vrai qu'à partir de 1973, 74, 75, Fela a un terrible écho dans le peuple. Et il enregistre jusqu'à 8 albums par an. Ces chansons sont reprises, sont écoutées partout dans tout le Nigeria et au-delà du Nigeria. Et tout cela, ça gêne énormément le gouvernement. Parce que Fela dit tout ce qui se dit dans le peuple, Fela le dit dans ses chansons. Combien ils s'en veulent, combien ils n'ont pas une idée réelle de ce que doit être un gouvernement africain. Parce que tous ces gens qui s'approprient toutes les richesses du pays ne font qu'une chose, c'est imiter les Blancs, faire en sorte que le pouvoir soit organisé exactement comme les colons l'avaient organisé auparavant, mais pour leur seul profit. Ils s'habillent comme les Blancs, ils parlent comme les Blancs, ils vont voyager en Angleterre comme les Blancs, ils prennent l'avion, etc. Il y a une chanson là-dessus qui est vraiment magnifique pour ça, et d'ailleurs c'est pour moi l'un des meilleurs enregistrements que Fela ait jamais fait, c'est JJD, Johnny Just Drop. Laisse tomber tout ça pour devenir un vrai Africain.
C'était très rare, quelqu'un qui osait dire ce qu'il pense. Donc ça, c'est une forme de modernité, une modernité qui préfigure la modernité qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec les révolutions africaines. Hein. Parce qu'en Afrique, et en particulier en Afrique de l'Ouest, c'était l'époque des griots. Et les griots étaient des interprètes de l'histoire, mais étaient souvent utilisés par les pouvoirs pour faire les louanges du pouvoir. Et donc Fela était très 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 différent de ce qui pouvait se passer sur toute l'Afrique.
C'est une épopée fabuleuse parce qu'il y a beaucoup d'argent, énormément d'argent. Fela a constitué les Young African Pioneers, les YAP, pour passer son message politique et faire circuler ses idées à travers cet organe de presse. Fela a constitué tout un réseau de correspondants de son mouvement politique à travers l'ensemble des régions du Nigeria. Pour un gouvernement qui se croit tout permis parce qu'il a réduit les Biafrais au silence et à la mort aussi. C'est une insulte qu'il ne peut pas supporter.
On a fait l'interview rapidement, c'était vraiment 5 minutes, hein. C'était juste, il exprimait sa position sur le fait que lui, pour nourrir sa musique, pour créer, il fallait qu'il soit à Lagos, qu'il reste au Nigeria et même qu'il lutte. Et il me dit à la fin de l'interview, de toute façon maintenant tu restes avec moi et je vais te montrer comment Fela reçoit les étrangers, tu bouges plus, tu restes avec moi, t'es mon invité. Il nous a d'abord emmené dans un club très huppé sur une des îles de Lagos, où là, il jouait en quartet les standards du jazz, des années 50, 60, du bebop.
C'est à Londres qu'il a découvert le jazz. Et à Londres, il a commencé à écouter. En plus, c'est la fin des années 50, donc l'explosion du jazz extraordinaire, avec notamment le cool jazz de Miles Davis. Et là, à ce moment-là, je crois qu'il est complètement capté par la trompette de Miles. Il s'y essaie sur une scène de Londres et je crois qu'il a un gros revers parce qu'il s'aperçoit qu'à ses côtés, il y a des jammers qui jouent nettement mieux que lui et il met toujours la barre très très haut. Et il s'aperçoit aussi, il est toujours très conscient de ses limites musicales. Et c'est pourquoi en 1965, il décide de virer en fait tout son groupe et d'en remonter un avec des musiciens hors pair, dont évidemment le célèbre Tony Allen.
À la batterie ?
Oui, alors, Tony Allen, c'est un grand batteur. Lui, il a surtout une qualité exceptionnelle. Sur le jeu de la cymbale. C'est un grand joueur de cymbale. Et il a une façon d'effleurer les peaux de caisse claire et de tom très, très fine. Il joue des mélodies carrément avec sa batterie. C'est très intéressant de la façon, un peu comme les batteurs de jazz d'ailleurs. Bon, déjà dans les années 66-67, on a peut-être quelques petites notions un peu de l'afrobeat, mais c'est pas au niveau de la batterie, c'est plus au niveau de l'architecture sonore, comment Fela arrive à placer les vents par rapport à l'ensemble de ses compositions et comment les vents deviennent un moteur complètement de ses créations. Quand il fait ça, il tourne complètement le dos au High Life.
Right.
So, Tony Allen.
Le
High Life est notre musique populaire locale.
That every West African.
Celle que tous les Africains de l'Ouest jouaient à l'époque.
Ghana, Nigeria,
au Ghana, au Nigeria.
Fuji, we have juju, we have,
nous avons le Fuji, la juju, tous ces styles de musique locaux.
Le langage de Fela, de celui qui va devenir Anicula Pokuti, celui qui a la mort dans son carquois, son langage, ce langage-là, qui va devenir extrêmement fort, extrêmement presque agressif contre toutes les dérives de l'État et qui va se formuler donc dans les années 70, il va naître seulement après le voyage qu'il fait aux États-Unis. Là, on entre dans un autre monde.
Lorsque je suis allé aux États-Unis en 1969, j'ai été complètement subjugué. J'étais assez silencieux dans la rue. J'écoutais les gens parler.
Il se retrouve à Los Angeles, et à Los Angeles, donc on est en 1969, donc en pleine émeute, hein, puisque les émeutes de Watts, c'est cette époque-là. On a déjà passé l'époque de Martin Luther King, etc. Et là, on est vraiment, les leaders sont les Black Panthers, le Black Panther Party, et la violence est présente, très présente, donc surtout en Californie et à Los Angeles. Et c'est à ce moment-là que Fela va rencontrer Sandra Smith, donc, qui est une militante Black Panther, et qui voit à travers Fela, à travers ce jeune homme qui est très beau, quelqu'un qui représente vraiment l'idéal de l'Afrique qui doit se libérer. Mais Fela n'a aucune notion de ce qu'ont les Black Panthers dans la tête, et c'est Sandra Smith qui va l'éduquer.
She was telling me about
Africa.
Elle me parlait de l'Afrique.
Elle
me disait, sais-tu que les Africains ont appris aux Européens tout ce qu'ils savent aujourd'hui ? J'ai répondu, tu dis n'importe quoi. Elle m'a dit, il y a des livres. Je lui dis, montre-moi. Et elle m'a passé un livre de Malcolm X.
Let us agree that the blow must be struck. And let us agree what type of blow must be struck and at whom the blow should be struck. And then those who don't go along with that strike, we can struck them first. We need an organization that no one downtown loves. We need one that's ready and willing to take action. Any kind of action.
C'est à ce moment-là que vont naître les premiers rugissements de l'afrobeat. Mais cette fois, les paroles ne sont pas encore là. C'est vraiment le cri primal de l'afrobeat et ça va devenir après quelque chose d'extraordinaire. Donc, il va libérer la parole quand il va rentrer à Lagos. Les mots qui viennent sont des mots en pidgin, c'est-à-dire des mots de pidgin English qui sont compréhensibles par toute la société.
Il y avait quelque chose qui était une architecture musicale absolument moderne autour d'une rythmique de béton et avec un big band et avec à l'intérieur de ça toute cette relation entre les cuivres justement et la rythmique et le chant qui était absolument incroyable, qui pouvait faire penser, et là son passage en Angleterre certainement l'a amené vers ça, qui pouvait faire penser au grand big band américain du jazz.
C'est une façon de composer de l'oralité. C'est-à-dire qu'avec tout ce que Fela a pu apprendre, engranger chez les Occidentaux sur la composition musicale, une fois qu'il s'est libéré de l'écriture harmonique, etc., et qu'il a pris à bras le corps la réalité de l'oralité africaine, il a pu construire des masses sonores. Donc pour moi, Fela, c'est un sculpteur de son. James Brown, lorsqu'il vient en tournée en Afrique au début des années 1970, vient au club de Fela, qui est donc le shrine, qui est donc le temple, et un de ses musiciens se met à côté du batteur Tony Allen et commence à écrire comment se joue cette musique. Donc on peut dire que si Fela a été inspiré par James Brown, et c'est vrai qu'il l'a été, James Brown aussi s'est inspiré de Fela. La voix vient donner des messages et après la parole vient la danse. Parce qu'il n'y a pas de parole sans danse, il faut danser la parole.
Bernard Métussier, cette photo-là.
Alors ça c'est une des queens, il avait des queens, il avait des femmes. Alors la légende, c'est pas la légende, c'est vrai, il en a épousé quelques-unes. Alors le chiffre varie, je ne sais pas, un jour il en a épousé... une douzaine à Londres. En même temps, il y avait des choristes, des danseuses. Quelques-unes étaient la mère d'enfants à lui. Et elle dansait, je crois.
Maquillée.
Maquillée, magnifiquement maquillée. Magnifiquement. Ça, c'est une répétition à Londres.
Les femmes de Fela étaient vraiment c'était des fourmis, quoi, les queens, c'est une organisation, franchement, j'ai eu du pouvoir, tu vois. Et donc, elles ramassaient sur la tournée tout ce qui traînait dans les backstage. Hein. La moindre boisson, le moindre canne de soda était ramassé, il n'en restait rien. Une fois qu'ils étaient passés, c'était les fourmis sont passées, il ne restait rien, il n'y avait plus même une serviette en papier, généralement, elle les prenait, tu vois. Et donc, parce que toute l'idée était, on ramène ça à Lagos, ou on va tout vendre. Bien sûr, là-bas, il n'y avait rien. Donc, tout ce qu'elle pouvait prendre, elle le prenait.
Eh bien, elle le mettait dans des sacs et donc, au fur et à mesure de la tournée, on voyait bien que le remonter dans le bus était de plus en plus compliqué. Il y avait de plus en plus de sacs qui étaient de plus en plus lourds. Des caisses étaient très, très lourdes. On les voyait. Et jamais, non, tu veux que je t'aide, Fintona? Non, sir, I don't need you.
Et Fela, dans tout ça, comment il réagissait?
Ah, très cool, le mec derrière les autres, d'ailleurs jamais en front line, hein. Toujours le dernier, il laissait tous les autres aller brasser devant, tu vois. Donc, parce que c'est une technique. Pendant que t'as tous les autres devant qui brassent, les femmes qui hurlent, les mômes qui pleurent, les musicos qui s'engueulent ou qui se battent, tu vois. Ça crée un chaos. T'as du pouvoir, il va rien t'arriver. Et c'était vraiment l'impression qu'on avait qu'il ne nous arriverait rien.
Ceci est le shrine, le temple. Car plus qu'une boîte de nuit, c'est bien d'un temple dont il s'agit, puisque voici son autel. En son centre, veillant sur la bonne ordonnance du culte, le buste de Nkrumah. Aux quatre coins du shrine, les photos du souvenir. Malcolm X, la mère de Fela, Fumilayo, Lumumba, Martin Luther King. Une nuit au shrine, c'est avant tout un pèlerinage.
Vers 1h30, 2h du matin, on est allé au shrine. Pas un chat dans les rues de Lagos. C'était une époque où on savait pas qui vous arrêtait la nuit. Il y avait tous ces slowdowns, c'est-à-dire les dodanes. Où il fallait ralentir, contrôlé par la police, par l'armée, par des gens déguisés en police ou en armée. Et on était dans une voiture et fait là à fond la caisse. Il me dit « slow down, il faut y aller vite, ça sera beaucoup mieux ». Donc on sautait sur tous ces dodanes. On arrive au shrine, c'était la fin de la première partie quelque part. Donc le big band, c'est-à-dire, je sais pas, 14 ou 18 musiciens sur scène, les danseuses, les chanteuses. Il y avait des espèces de tubes comme les Go-Go Girls aux États-Unis. Donc parfois, elles descendaient le long du tube un peu lascivement. Elles étaient très provocantes, c'était très sexe d'une certaine façon.
Aux quatre coins de la salle, il y a des petites cages surélevées dans lesquelles les danseuses dansent. Et Fela a à ses pieds un clavier qui permet de déclencher les projecteurs dans les cages et de faire changer les lumières. Et lorsqu'il estime que l'une des danseuses ne danse pas assez bien, il éteint la lumière. Et la danseuse sait tout de suite qu'elle doit sortir de scène et rentrer en backstage et qu'elle sera certainement fortement réprimandée.
Et à ce moment de pause, Fela avait un rôle très très précis. C'est-à-dire, en fait, il arrivait et il permettait à tout l'orchestre de se reposer. L'orchestre avait déjà joué pendant plus de 2 heures. Et lui, il faisait un peu chansonnier. Il commentait les événements politiques et la réalité sociale du Nigeria de la semaine.
So, now, we got one basin. Where we put for toilets. Where will they take piss? The basin, we just put up for toilets. So one water come.
Et en prenant des risques insensés politiquement, c'est-à-dire on sentait le type qui était complètement engagé, donc la foule huait, la foule criait, la foule sifflait, il faisait marrer tout le monde. Et là, il permettait par la même occasion à tout le monde de boire un coup, de se reposer, et tout le monde repartait pour de nouveau 2-3 heures de concert. En fait, après, le concert recommençait, il devait être à peu près 3 heures du matin, et jusqu'à 5 heures, 5 heures et demie. Et en fait, deux morceaux, quoi. Chaque morceau durait à peu près une heure. Et c'était phénoménal. C'est-à-dire, c'était pour moi un des plus grands moments musicaux de toute ma vie, quoi. C'est-à-dire, vraiment, d'avoir passé toute cette journée et d'avoir vu d'abord le Fela qui connaissait les standards, après le Fela critique, acerbe, humoriste, après le Fela chef d'orchestre, mais incroyable, c'est-à-dire, ça partait au doigt et à l'œil, et une musique complètement phénoménale. Et donc la nuit s'était terminée, on était revenu chez lui, et j'étais dans la chambre d'une des chanteuses, et c'est comme ça que s'était terminée la nuit. Et on dit, je demande à la chanteuse, mais qu'est-ce que ça fait d'être là, je sais pas combientième épouse de Fela? Et là, extrêmement simplement, elle me dit, mais elle me montre une espèce de caisse qui était là, son lit, la chambre. Elle me dit, tu crois que je serais où si j'étais pas la femme de Fela? J'aurais rien. Il me donne une chambre, j'ai un lit, j'ai toutes mes affaires, je suis payé. Que demander de plus? Et je lui dis, mais et l'amour? Oh, elle me dit, bah, l'amour, quand il vient, c'est super.
We're gonna play for you our first tune tonight. It's gonna be about four tunes. And the first tune is called Olohun ta wa se yara je ka bere. Now, which means, let's start what we have come into the room to do. Right on. Here goes. One.
En 1977, le gouvernement nigérian décide de faire le deuxième festival des arts nègres, qu'il va appeler Festac. Fela étant déjà une très grande personnalité du monde de la musique, il est invité à venir participer, mais il pose de telles conditions aux organisateurs que, aussitôt, il s'exclut. Et c'est un bon prétexte pour Fela pour dire: eh bien, puisque c'est comme ça, je me retire de ce festival qui n'est fait que par des usurpateurs qui sont des suppôts de la corruption, et je vais faire mon propre festival au Shrine, dans ma boîte. Mais aussitôt le festac terminé, sous le prétexte que, enfin un prétexte quand même assez fort, puisque Fela vient d'enregistrer une chanson qui s'appelle « Zombie », une de ses plus grandes chansons, qui compare les militaires à des zombies, et que les militaires vraiment prennent vraiment extrêmement mal. Et donc, aussitôt le festac clos, toute une compagnie militaire prend possession de Calcutta, met le feu à sa maison, les femmes sont violées, les hommes sont frappés, et la mère de Fela, qui vit dans cette maison, puisque c'est la sienne, est jetée par les militaires par la fenêtre. Et c'est un coup extrêmement terrible et un coup vraiment définitif dans la carrière de Fela. C'est vraiment, à ce moment-là de sa vie, c'est quelque chose qui le met vraiment totalement à bas.
Après avoir exposé le cercueil de sa mère sur un balcon de Calcutta dévasté, Fela, en un geste de défi, ira jeter le cercueil au pied de son assassin, Abba Sanjo.
This government threw my mother out of window, Mrs. Fumilayo Anikulakukuti, who fought her blood for this country on the streets. Now, there has not been anybody in this whole politics in Africa. Only two people have walked on the streets to follow people to where they are going. Nkrumah and my mother. What are you talking about? All this nonsense that you have hanging around here, they sit down in cars, man.
Ma mère était une femme, une maîtresse de maison, un professeur. Elle était membre de ce qu'elle appelait elle-même la société des ladies. Mais je me souviens un jour, alors qu'elle était assise à la maison, des femmes vinrent la visiter pour se plaindre que de la police du gouvernement était venue au marché. Ils voulaient les taxer sur ce qu'elles vendaient. Elle souffrait et elle demandait si elle aurait pu faire quelque chose pour les aider. C'est comme ça qu'elle est rentrée dans la politique. Elle s'est levée de sa chaise et est allée au marché avec elle. Elle vit exactement ce qui se passait. C'est de ce point-là qu'il commença à organiser les femmes de ma ville. Ce fut un mouvement très puissant. Toutes les femmes s'y joignirent, toutes les femmes du marché. Et de là, elle étendit son mouvement au pays tout entier.
She was very direct in her protests and attacks on government.
Elle était très directe dans ses protestations et ses attaques du gouvernement.
Very honest from what I saw.
Et elle était très honnête à ce que j'ai vu.
And she was only known.
Elle est simplement connue
for her active participation, but she never
pour sa participation active, mais elle n'a jamais été reliée au
Parlement.
À chaque fois qu'elle allait au Parlement,
competition with the party.
Elle devait se battre contre son propre parti. Elle était affiliée à un parti appelé le NCNC. Elle me disait toujours combien ces gens étaient corrompus.
How old were you this time? Oh, I was about 16, 17.
J'avais à ce moment-là 16 ans ou 17 ans.
I was quite interested in looking back now.
En regardant maintenant,
I was interested in her welfare.
J'étais intéressé comme elle agissait en tant que ma mère.
Interested in what she was doing. I wanted her to succeed.
Je m'intéressais à ce qu'elle faisait. Je voulais qu'elle réussisse.
She never gained recognition.
Elle n'avait jamais été reconnue des gens du Nigeria. Probablement parce que c'était une femme. Et les Africains ne donnent pas la reconnaissance facilement à une femme. Mais elle a eu une reconnaissance internationale.
Mais elle est très connue au Nigeria. Notre nom est très connu. Elle est connue sous le nom de Ransom Kuti. Je dirais même qu'elle a jeté les fondations sur lesquelles je travaille maintenant. Elle a laissé le nom aussi. Vous savez, ma famille, les Ransom Kuti, nous sommes connus pour être une famille politique.
On ne peut pas comprendre Fela sans s'intéresser au rapport très très fort que Fela avec sa mère. Son père était quelqu'un de très rigide, il était pasteur. Je crois que son grand-père, si je ne dis pas de bêtises, était aussi pasteur. Fela avait un lien très 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 proche. D'ailleurs, c'est bizarre. Je retrouve dans Femi, le fils de Fela, ce même lien très fort à la mère. C'est très surprenant, quoi. Et donc la mère était un vrai personnage aussi, à la fois charismatique, qui avait participé très fortement à l'indépendance du Nigeria, qui avait lutté pour le droit de vote des femmes, qui avait fait obtenir le droit, le permis, enfin, que les femmes puissent avoir des permis de conduire des voitures. Elle avait fait des voyages pour rencontrer Mao Tse-tung. Donc c'était vraiment, dans le contexte de l'époque, déjà une femme exceptionnelle. Et Fela, au début, a voulu emboîter le pas sur ça, mais très vite, il avait été aussi très frustré que sa mère, après l'indépendance, n'ait pas eu la place qui aurait dû lui revenir. Donc déjà, ça a été une des grandes déceptions de Fela par rapport au système, à l'organisation, disons qu'à la politique structurée et structurelle. Mais le vrai grand lien, c'est la culpabilité que Fela a eue lorsque, à l'attaque de Calcutta, elle a été défenestrée et elle est morte des suites de cette intervention. Donc, Fela, lorsque sa mère est morte, il a apporté une culpabilité, mais totale et réelle. Et ensuite, Fela, de partout et sans cesse, était habité par le souvenir, l'idée de sa mère. Il disait qu'elle était réincarnée dans l'eau et la pluie chaque fois qu'on faisait un concert. Alors, c'est vrai que ce fait-là, il arrivait des fois à créer des situations incroyables. Mais alors qu'il n'y avait aucune raison qu'il pleuve, il y avait des gouttes d'eau qui tombaient.
I'm going to play for you a tune that I call Black Man's Cry. One, two, three.
Le général Obasanjo, lorsqu'il a pris le pouvoir, et donc c'est lui qui a décidé d'organiser ce festac, il a aussi promis de redonner le pouvoir aux civils en 1979. Et justement, Fela, tel Coluche, mais peut-être de manière beaucoup plus sérieuse, Fela, lui, est déjà dans cette dynamique de course au pouvoir, c'est-à-dire qu'il va, il est candidat chef de l'État du Nigeria. Mais au moment de l'attaque de Calcutta, tout est détruit. Fela n'a plus rien. Fela n'a plus de maison. Fela n'a plus de maison de disque. Les autorités lui interdisent de se produire sur scène. Il débarque avec toute sa communauté, il squatte, il vit dans les bureaux pendant plusieurs mois de la maison de disques Decca. Donc Fela se trouve là, en 1978, dans une situation extrêmement critique. Et pour la première fois, un festival occidental invite Fela à jouer sur scène. Donc c'est le Festival de Jazz de Berlin. Et là, la confrontation avec le public est quand même assez étrange. Parce que le public du Festival de Berlin n'est pas forcément conquis d'emblée par la musique de Fela. Et ce qui se passe de bien pire, c'est que quasiment la moitié du groupe, avec ses meilleurs éléments, dont Tony Allen, quitte le groupe et laisse Fela seul rentrer à Lagos.
VIP means very important personality.
Somebody great man. But you see, these VIPs, when they get too rich, they do not want to see the ordinary man on the street who is poor. If you don't understand my language, I'm sorry, I can't help you. If you do not want to hear, other people want to hear. And it's the right of all human beings to respect other people's feelings. For me, I give them a name, VIP, means vagabonds in power.
Et c'est là qu'on peut comprendre son recours à la magie, son recours aux forces occultes. Et c'est là, effectivement, à cette période-là, vers 1979, qu'il rencontre ce mage ghanéen qui s'appelle le professeur Hindu.
À Hindu, j'ai été officiellement l'assistant de International Professor Hindu. C'est extraordinaire qu'il avait déjà, lui, il avait un look fabuleux. C'était un qui portait un manteau de fourrure, avec en dessous en slip, avec des chaussures vernies. Et généralement, c'était tout. Le mec se promenait, il était capable de se promener comme ça, en ville. Il avait une connaissance extraordinaire. C'était un vrai mage. Ça aurait été un druide ici, ou un arbouteux, ou c'est n'importe quoi. C'est quelqu'un qui avait la connaissance de la nature, la connaissance des gens, donc il était un illusionniste aussi. Donc tout ça mis bout à bout, on faisait un personnage assez fantastique.
Et pendant toutes ces années passées aux côtés de Fela, il y avait chez lui une grande part de mysticisme ou...
Il y avait une grande croyance dans la culture africaine, et donc le mythe fait partie de la culture africaine. Donc c'est en cela que Fela était mystique. C'est parce que c'était avant tout un Africain et qui respectait la culture africaine.
Mais la tournure que prennent les événements est assez terrible. Parce qu'en fait, tout ce côté, la revendication, l'humour, le côté tranchant, mais aussi le panache que pouvait avoir Fela, se transforme dans une sorte de paranoïa, de d'aigreur vis-à-vis du monde blanc, ce monde blanc qu'il a toujours rejeté. Alors maintenant, tous les gens qui l'entourent, les blancs qui l'entourent, sont soupçonnés de faire partie de la CIA. Et il s'imagine de grands complots autour de lui. C'est vraiment tout... une fantasmagorie qu'il a dans la tête, qu'il entretient aussi avec ses relations, avec l'occulte, avec la magie, avec le retour aux forces occultes de l'Afrique, des ancêtres, et qui va l'entraîner très loin, jusqu'à refuser en bloc tout ce qui est la médecine occidentale, et d'ailleurs qui va l'empêcher de se soigner.
I will beat you, I will never kill you. La Shakara. I go beat you, go be like you get accident. La Shakara. You don't know me, La Shakara. Wait, make I come out of my dress. La Shakara. You see, enough you do nothing. Ashakara Loji. We got a song for them. We just sing them like this. We go say,
Au moment de la disparition de cet homme extraordinaire, il n'y a pas un seul album. Et il a créé une quarantaine d'albums. On ne trouve plus un seul album sur le marché au moment où il disparaît. Et il a fallu 4 ans avant que cette œuvre soit rassemblée et soit rééditée en intégrale. Et ça, c'était quand même vraiment un acte que je trouve très beau. Et ce son qui permet à la fois de danser et de penser. Il a tellement frappé les gens qui l'ont écouté, les jeunes générations qui l'ont écouté, que des tas de jeunes musiciens qui sont des musiciens de jazz, qui sont des musiciens de rock, se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce son extraordinaire ? Ça a permis aussi aux DJ de transformer, de faire évoluer, d'intégrer ce son pour en faire une musique qui vit. Where you come from, Zef? I be me and you.
Not touch me, oh. Finalement, il aimait jouer. Je pouvais me permettre du sax et du sexe. C'était le reste l'ennuyait profondément. Et raconter. Et raconter des histoires, raconter des histoires, mais extraordinaires. Toutes liées à l'Afrique, à la mémoire de l'Afrique, à ce que l'Afrique doit absolument retrouver ses racines. Il n'était pas du tout passéiste ni rien, mais il voulait vraiment que l'Afrique retrouve sa mémoire.
Femi Kuti. Je ne veux pas comparer ma musique à celle de mon père. Car sinon, je m'expose à beaucoup de problèmes. J'adore mon père. Vous savez, j'ai grandi au milieu de la musique. Quand on était gamin, j'avais 5 ans, je me souviens du morceau Jungkook-ku. On l'a écouté des milliers de fois. Je connaissais tous les pas de danse, toutes les pauses. Et on le chantait même aussi à l'école. Donc la musique fait partie de moi. J'apprécie tout ce que mon père a fait. Mais je suis son fils. Et je pense pouvoir amener sa musique ailleurs. Et un jour, vous entendrez Made Anikulapokuti, fils de Femi Anikulapokuti, fils de Fela Anikulapokuti. Fela Kuti, la musique est un sport de combat. Avec François Bensignor, journaliste musical, Francis Kertekian, ancien manager et éditeur de l'œuvre de Fela, René Lenoble, tour manager de Fela, Philippe Conrat, ancien journaliste musical à Libération et directeur du festival L'Africolore, Bernard Mathussière, photographe. Archivina Hervé Evano, attaché de production Anne de Biran, groupe de réalisation Benjamin Vignal, Claude Nior et Anne Franchini. C'était un documentaire de Jérôme Sandelard.
C'était une œuvre de l'été consacrée à Fela Kuti. Merci à Jérôme Sandelard et à Anne Franchini pour cette émission, deuxième de notre série musicale et qui se poursuit samedi prochain avec un numéro sur Richard Wagner. À samedi donc et très bonne fin d'après-midi à toutes et à tous.